pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
On est à l'Escurial, c'est un cinéma qui est sur le boulevard Port-Royal à Paris. Et aujourd'hui, samedi 11 mai, les Amis de l'Humanité proposent une séance avec différents petits bouts de documents audiovisuels, avec un débat avec Marcel Tria, qui est réalisateur, et l'historien Gérard Noiriel. Gérard Noiriel nous parlera du mouvement des Gilets jaunes.
Gérard Noiriel, Gérard, est-ce que tu veux bien t'approcher? Donc, Gérard Noiriel, l'historien, est annoncé, il est là. Merci à lui. Il vient de publier un petit bouquin, de pages, qui s'appelle « Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire », on va en parler. Et au préalable, il y avait eu un livre plus conséquent qui s'appelle « L'histoire populaire de la France », je crois. Hein. Voilà, donc on va parler de ça, mais au préalable. Je pense que ce serait intéressant d'avoir ton sentiment sur ce que tu as vu, peut-être pas en totalité, mais tu en as vu une bonne part, tout ce qui a été montré sur Tria journaliste. Et quel sentiment ça procure chez toi sur le rôle des médias?
Bonjour à tous. Mais moi, je suis très content d'être là parce que moi, j'ai découvert Marcel Tria, en fait. C'est pas tellement par la télévision, c'est par la radio, puisque j'étais moi-même enseignant à Longwy en 79, quand il y a eu la création de Lorraine Cœur d'Acier. Marcel Tria, là, c'est une autre facette où là, il est un peu aux manettes, hein, où donc il pouvait concrétiser, je dirais, les aspirations pour une information libre, contradictoire, donnant la parole à des ouvriers, puisque les trois quarts de la population active de la région de Longwy étaient ouvrières et engagées dans une grande grève, bon, les anciens se rappellent certainement, qui était la lutte contre la liquidation de la sidérurgie. Donc, moi, j'étais enseignant là-bas à cette époque-là. Et donc, Marcel m'a proposé de participer à Lorraine Cœur d'Acier, où j'ai fait un certain nombre d'émissions d'histoire, émission qui s'appelait Passé Présent. Donc, voilà, là, j'ai découvert, effectivement, parce que l'image que j'avais, moi, des journalistes n'était pas très positive, je dois le dire, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'époque justement de la censure. On a l'impression que moi, j'étais déjà à l'époque engagé, j'étais militant communiste, et donc voilà. Il y avait aussi, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais là, c'était pas forcément évident à ce moment-là aussi de donner la parole dans une radio qui était celle de la CGT à tous les points de vue. Ça a été un enjeu aussi de lutte, et il y avait une certaine, je dois dire, appréhension, hein, puisque les radios libres, c'était un combat à l'époque, puisque c'était illégal, et c'était des petits groupes qui militaient autour de ça. Et à Louis, avant Lorraine Cœur d'Acier, il y avait SOS Emploi, qui était une radio libre menée par la petite section locale de la CFDT, qui était, disons, en bisbille avec la direction nationale, ce qui était plutôt anarcho-syndicaliste, on pourrait dire, avec Jean Renardi, etc. Et là, on avait un modèle, mais qui était un modèle qui était tellement marginal, qui était complètement brouillé constamment, etc. Donc on a vu arriver la CGT, et donc Marcel et ses journalistes parisiens, Jacques Dupont, avec des moyens beaucoup plus importants, s'est demandé, tiens, est-ce que ça va pas être la voix de son maître du côté, vous voyez, de la direction du PC, etc., parce qu'il y avait des conflits importants au sein même du Parti communiste à cette époque-là, qui a été extraordinaire. Le succès populaire de cette radio, ça a été ce que Marcel et Jacques en ont fait. C'est-à-dire, effectivement, un moyen de tout à fait révolutionnaire de communication dans une région où on avait une classe ouvrière qui avait été complètement exclue de toute forme de communication, de participation. C'est un ghetto du travail et de l'immigration, le PIO. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important, ce qui fait que la lutte de 79, qui était évidemment tournée contre les licenciements, est devenue aussi une lutte pour la dignité, parce que la radio est devenue un instrument aussi pour défendre sa dignité, puis un instrument aussi pour la prise de parole. Et ça a été donc quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc c'est ça, moi, l'image que je garde. Et après, j'ai suivi, enfin, on est resté en contact depuis cette période-là, de temps en temps. Quand tu étais à Moscou, on avait pu...
Gérard, on continue avec toi. Là, tu viens donc de publier ce livre-là, qui s'appelle Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire. Pourquoi à la lumière de l'histoire ?
Bon, ce petit bouquin, c'est des entretiens. Enfin, le premier a été publié dans Le Monde, hein, au moment de la... lorsque le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, on a vu surgir comme ça toute une série d'explications qui me semblaient tout à fait infondées, notamment Jacquerie, Poujadisme, etc. Donc je suis intervenu dans Le Monde pour justement expliquer que tous ces points de vue-là, a priori, sur un mouvement qui était difficile à comprendre, étaient des manières de stigmatiser une lutte populaire comme ça se fait, disons, régulièrement. Donc, je suis intervenu là-dessus. Comme j'avais en tête, effectivement, parce que j'avais longtemps travaillé pour ce livre sur l'histoire populaire de la France, j'avais beaucoup de références qui étaient présentes à mon esprit sans avoir besoin de faire beaucoup de recherches. Donc c'est ce qui a motivé le fait que j'ai été sollicité par les journalistes, notamment du Monde. Parce qu'au début, il faut bien voir qu'au tout début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un très grand désarroi chez les journalistes. Ils ne savaient pas quoi dire par le fait. Parce que c'était le résultat quand même d'une situation que j'ai essayé d'expliquer aussi, de marginalisation des questions sociales. Donc il y avait un déficit, je dirais aussi, pas du côté de la recherche, il y avait des choses, mais dans l'accès à l'espace public. Nicolas Truong, donc, qui s'occupe des pages et pas dans Le Monde, m'a proposé d'en faire un petit bouquin qui est paru, donc voilà. Mais bon, c'est pas des choses, je suis très modeste là-dessus, hein, c'était... L'éclairage de l'histoire, oui, c'était tout ce que j'étais capable de faire. C'est aussi ça, c'est-à-dire de montrer comment dans un mouvement comme celui-là, il y avait à la fois des choses complètement inédites, mais aussi des éléments qui, moi, me semblent structurels des luttes populaires depuis la Révolution, voire même avant.
C'est que, comme tu le disais, au début, personne ne savait à peu près de quoi il retournait dans cette affaire de Gilets jaunes, puisque ça tirait de tous les côtés, y compris parmi eux.
Y compris la compréhension au niveau de la CGT, hein, au début, certaine méfiance.
C'est pour ça que le livre est intéressant, parce que Gérard, dans le livre, prend en charge un petit peu toute cette diversité de points de vue, ces contradictions, les controverses, etc. D'accord. Donc, ce n'est pas un livre qui rectifie tous les points de vue, qui dit voilà le point de vue qu'il faut avoir, qui est le plus juste pour comprendre tout. Non, tu prends en charge un petit peu justement toutes les controverses. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je suis journaliste, donc je lis beaucoup les journaux, c'est la bonne des choses. Bon. Et dans cet entretien accordé au Monde, il y avait un titre: Les Gilets jaunes ont replacé au centre la question sociale. Oui. Les Gilets jaunes ont replacé au centre la question. Comment ils l'ont replacé? Qu'est-ce que ça veut dire au centre? Bon, de toute façon, ça veut dire c'est le retour de la question sociale dans, disons, sur la place publique. Tous les journaux, excepté l'Humanité, ont fait disparaître les pages sociales. Tous les quotidiens. Le Figaro, Libération, Le Monde et tout. C'est devenu des pages économie. Bon, c'est-à-dire le social est passé sous l'économie. Et par exemple, il y a il y a plus de place pour les cours de la bourse ou pour l'évolution de l'économie, du CAC 40, etc., que pour les choses que ces journaux qui... Avant 68, Le Monde et les journaux Libération n'existaient pas, il y avait notre Libération. On a vu venir 68 un petit peu dans les journaux. Si vous lisez les collections des journaux, je ne parle pas que de l'Humanité, là, vous verrez qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouillir. Bon. Et depuis, zéro. Ou alors il faut qu'elle la casse. C'est imprévu. C'est un imprévu, les Gilets jaunes. Comment un historien peut-il se saisir d'un truc qui est imprévu ?
Alors, je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, Marcel parlait de la déontologie du journaliste. Moi, j'essaye de défendre aussi une déontologie de mon métier, de chercheur, de socio-historien. Ce qui fait que je ne suis pas là ni pour faire des prophéties, ni pour soutenir tel ou tel camp. Donc, c'était aussi important pour moi de déclarer le mouvement des Gilets jaunes en montrant les contradictions qui ont toujours existé dans les luttes sociales. Entre tous les mouvements sociaux, parfois on les évoque après coup avec nostalgie, mais il y a toujours des contradictions internes, il n'y a jamais d'unité du mouvement, il y a toujours voilà, des choses diverses. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce que du coup, eh bien évidemment, on a vu des gens qui pouvaient interpréter le mouvement des Gilets jaunes dans un sens, dans un autre, etc. Surtout que c'est un mouvement qui est très peu organisé, qui n'a pas de porte-parole, etc. Moi, mon but, c'était ça, de rappeler cette diversité des luttes, de montrer que cette diversité qu'on constatait par rapport aux Gilets jaunes, elle avait déjà existé dans le passé. Donc c'était ça pour moi le plus important, plutôt que d'annoncer quoi que ce soit sur l'issue du mouvement. Et donc cette notion d'imprévu, oui, ben, c'est aussi des choses qu'on... Vous savez, 1848, par exemple, Marx l'écrit, hein, que ça avait complètement surpris les républicains, etc. Enfin, les grands mouvements sociaux surprennent tout le temps. En 68, il y avait la fameuse phrase de Vincent Pronté, etc. Donc c'était pas fortement surprenant pour un historien que ça ait surpris les élites, je dirais. Et il y a un autre élément sur lequel, pour moi, c'est très important, parce qu'il y a aussi des luttes internes au champ des sciences sociales. Faut pas oublier ça. C'est que ces effets de marginalisation des questions sociales, on les constate nous aussi dans notre propre métier. Et il faut bien voir que la lutte des classes, elle se mène toujours aussi dans la construction des représentations de la réalité. Et dans le jeu, ben, quelles sont les bonnes victimes dont on va parler? Donc c'est aussi une des choses qui va rendre aussi parfois la tâche des journalistes difficile. Puisque même un journaliste qui va se dire, je sais pas, engagé du côté des faibles, de l'opprimé, etc., ben c'est aussi en fonction de la construction qu'on a donnée de ce qu'étaient les dominants, les dominés dans les sociétés. Et on a eu en France qui s'est produit, surtout à partir des années 80, c'était la montée des logiques identitaires, focalisant ce qu'on appelle nous parfois la réification, c'est réduire les individus à leur identité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit de couleur de peau, etc., en oubliant le social. Moi, je l'ai travaillé beaucoup sous l'histoire de l'immigration, c'est ce que j'ai montré dans mon livre aussi sur l'histoire populaire, je montre ça. Progressivement, au lieu de dire travailleur immigré, par exemple, on a dit immigré, et après on a dit musulman, et ainsi de suite, etc. Et on a une partie des gens qui luttaient contre le racisme, qui eux-mêmes ont fini par se définir uniquement à partir de critères identitaires. Et c'est contre ça, on a un certain nombre de sociologues, d'historiens, voilà, ont voulu maintenir le cap sur, justement, une vision qui nous apparaît être la réalité, c'est-à-dire que chaque individu se détermine à partir de plusieurs critères, et que le critère social, économique, reste fondamental. Donc c'est ça, des enjeux qui étaient internes à notre métier, qui, moi, m'ont ravi quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes, parce que, du coup, ça va mettre dans le mouvement social des alliés pour défendre aussi la perspective qu'on a, nous, sur l'histoire de la société. Donc il y a eu cette... conjoncture qui a été intéressante, parce que chaque fois qu'il y a une grande mouvement social, du coup, il y a des effets aussi dans le champ intellectuel. C'est-à-dire, on redécouvre, tiens, ça existe les ouvriers, ça existe. Donc c'est tout ça qui s'est produit avec ce mouvement-là.
Est-ce que cette question identitaire qui a emporté sur les questions sociales, est-ce que ça explique le fait qu'au départ, les Gilets jaunes ont été très suspects sur le plan identitaire? Bon, on connaît cette histoire, hein. Ils sont xénophobes, parce qu'il y en a deux qui ont remis des migrants à la douane. Il y en a d'autres qui ont crié à un type une insulte homophobe. Et donc, tout de suite, il y a eu, ils sont racistes, ils sont xénophobes, ils sont homophobes. Etc. Bon, est-ce que tu as constaté ça? C'est-à-dire que, parce que c'est ça que tu traites dans le livre aussi, hein, c'est quelque chose qui renverse un peu la table sur est-ce qu'il n'y a plus que de l'identitaire, qu'il n'y a plus de social, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça élargit la palette de ceux qui veulent discréditer un mouvement social, Il y a la vieille logique des casseurs qui reste encore extrêmement présente. Nous, on a rajouté maintenant des éléments comme le racisme, l'homophobie, etc., etc., pour discréditer un mouvement en prenant des choses qui sont réelles, mais qui sont complètement minoritaires. De même que dans toutes les luttes sociales, il y a toujours eu des gens minoritaires qui pouvaient casser, etc. Donc c'est le problème aussi de généraliser à tout un mouvement des comportements qui ne sont pas du tout significatifs de l'orientation de cette lutte-là. Mais ça a eu des effets aussi à l'intérieur du champ, je dirais, intellectuel, où il y a une... Dans notre milieu, il y a une très grosse fracture hein, dans le milieu de la recherche. Il y a ceux qui sont extrêmement hostiles. C'est pour ça que je suis intervenu à la suite de Patrick Boucheron, quand Patrick Boucheron, donc professeur au Collège de France, que je connais depuis très longtemps, que j'ai quasiment eu comme étudiant, qui a eu des propos extrêmement, j'ai trouvé, méprisants, négatifs sur les Gilets jaunes. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt orienté, disons, à gauche, il fallait marquer le coup, je veux dire, parce que au sein même de notre mouvement, on voit ce clivage-là, on a toute une fraction des universitaires qui sont hostiles à ce mouvement-là, et une autre qui est engagée. Il y a un collectif aujourd'hui de chercheurs qui se défend, qui travaillent, les Gilets jaunes, sans parler à leur place. Hein, c'est aussi très intéressant de voir l'évolution. Il n'y a plus de Jean-Paul Sartre aujourd'hui, il n'y a plus de Bourdieu, hein, des gens qui sont les intellectuels porte-parole, mais il y a des démarches plus collectives. Hein, je trouve ça aussi c'est très, très intéressant. Donc on est encore aujourd'hui dans une phase où on ne sait pas trop ce que tout ça va donner. Parce qu'un mouvement comme ça, il faut voir qu'il va s'installer dans la durée. Hein, donc on sait très bien qu'il y a une première phase qui a eu lieu aujourd'hui. Maintenant on va entrer dans une phase plus longue et c'est en train de se jouer actuellement.
Il y a des amis là qui ont suivi les assemblées, à Commercy et à Nasserrez.
Oui, voilà, Commercy.
Et donc, en fait, quand on écoute ça, Mediapart a rendu compte des deux assemblées, l'humanité aussi quand même. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution du mouvement des Gilets jaunes?
Moi, je crois, alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais moi, ce qui m'avait frappé au début, c'est quand même que au tout début du mouvement, le mouvement était soutenu par la droite. Vous pouvez vérifier sur Google, vous avez un journaliste bien connu qui s'affiche de droite, qui s'appelle Éric Brunet, qui a lui-même mis un gilet jaune. On a encore la vidéo. Hein, il a mis un gilet jaune la veille de la manif du 17 novembre en disant, oui, la première, allez tous à la manif. Il le dit explicitement, parce qu'à l'époque, c'était perçu comme un truc de droite, contre les impôts, etc. On est surchargé de taxes, d'impôts, machin, etc. C'était aussi beaucoup à l'initiative de petits patrons, enfin, il y a eu cette dimension-là. Mais la force du mouvement, c'est ça qui est extraordinaire dans un mouvement social, c'est que, voilà, ça a dépassé ses premières luttes, ses premières définitions, pour une évolution qui a été de plus en plus, je trouve, vers un côté progressiste. Ce qui fait que d'ailleurs, que la semaine d'après, Éric Brunet a dit oh « Non, je ne soutiens plus, c'est trop violent. C'est trop violent pour le capital, certainement, capitaliste, etc. » Donc il y a cette évolution qui se fait et voilà, il y a une grande diversité dans le mouvement. On peut pas, c'est ça la difficulté d'interprétation, mais effectivement, les Commercy, ce qui s'est passé aussi à Saint-Nazaire, etc., je pense que c'est là que s'enracine quelque chose de vraiment de nouveau et qu'il faut soutenir. En tout cas, moi, c'est dans la démarche dans laquelle je suis, mais évidemment, c'est de ça dont on parlera le moins, enfin, dans les médias. On a une lutte, là, symbolique aussi, dans la représentation du mouvement, qui est extrêmement importante. Oui.
Est-ce que tu penses que la violence policière, qui est la violence gouvernementale, quoi, et la violence verbale de la part des gouvernants, est-ce que c'est aussi dû au fait que, après la loi travail, où les syndicats ont été battus, quand même, dans cette affaire, c'est peut-être pas fini, hein. Enfin, quand même, dans un premier temps, les cheminots, ça a été très dur pour eux, quand même, hein. Ils ont dû reprendre le boulot et tout. Bon, est-ce que tu penses que là, le pouvoir en place s'est dit, on a un boulevard devant nous? On peut tout faire, on peut y aller à fond. Et que simplement, ils ont été pris à revers parce que la balle est revenue. La balle est revenue par ceux, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire, ce sont des inconnus, les Gilets jaunes, ce sont des invisibles, comme ça a été dit. Donc c'est un drôle de mouvement populaire quand même. Parce que là où il y avait eu des défaites des luttes sociales, tout d'un coup, il y a eu un retour de bâton pour le gouvernement. Comment tu analyses ça?
Mais là aussi, on peut l'éclairer par l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Si vous voulez, dans la lutte des classes, on voit très bien qu'il y a des phases. Si vous voulez, l'histoire du mouvement ouvrier au XIXe siècle, elle est surtout ce qu'on appelait les journées révolutionnaires, hein, depuis la Révolution, le 1830-1848, la Commune de Paris. Et donc, lorsque la Troisième République a le sentiment qu'elle a enfin réussi à juguler tout ça, puisque avec la Troisième République, on passe à une phase de démocratie parlementaire, etc., ben, le mouvement ouvrier se recompose dans les usines, dans les mines, etc. Et ben, une nouvelle période qui n'avait pas non plus prévu, c'est le désarroi d'ailleurs de la première génération républicaine, hein, si vous prenez Gambetta, Ferry, etc., sont complètement démunis par rapport au nouveau mouvement ouvrier qui est en train de s'installer. Ben, on vit, je pense, une période comme celle-là. On vit une période de transition avec un affaissement effectivement des formes classiques du mouvement ouvrier liées à la liquidation des usines, à la précarisation du travail, etc. Donc, ce qui permet donc au pouvoir d'imposer plus facilement qu'il ne pouvait le faire auparavant ces mesures libérales, etc. Mais d'un autre côté, voilà, c'est ce qui est extraordinaire, je trouve, dans l'histoire, et ce qui rend optimiste quelque part, c'est que les formes de résistance, de révolte, se recomposent toujours, mais par des moyens, des façons qui n'étaient pas prévues auparavant. C'est aussi la capacité, je crois qu'il faudrait aussi insister là-dessus, d'utiliser les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux, c'est aussi, c'est comme tout, c'est contradictoire. La technologie est toujours contradictoire. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et là, on a vu comment ça pouvait nourrir aussi des formes de liens sociaux inédits par le fait qu'ils ont aussi contribué à cette mobilisation.
Il y a eu quelque chose de particulier, c'est que le travail, la manifestation, c'était à propos du code du travail. Les cheminots, leur statut. En fait, c'était plus que le statut. On a dit c'est le statut. Il y a beaucoup de gens en France, je pense que le code du travail et le statut des cheminots, ça doit leur passer. Bon. En revanche, ce qui est sorti chez les gens, c'est un truc simple. C'est les fins de mois. Quoi. Bon. Est-ce que tu penses que le concept de fin de mois, c'est plus qu'un concept, c'est un vécu, ça a traversé toute la société. Pas toujours de haut en bas, mais quand même des fins de mois, quand on les entendait en parler sur les ronds-points, à un moment donné, ça venait de tous les côtés. Quand même. Ça venait de retraités, ça venait de femmes qui travaillaient dans les EHPAD, etc. etc.
Oui, ben c'est aussi le problème, je dirais, des luttes professionnelles qui autrefois étaient ancrées dans l'entreprise, etc., et qui avaient une efficacité quand il y avait un blocage des entreprises, comme en 36 ou en 68, etc. Là, évidemment, lorsque vous cessez totalement la marge de la production, vous pouvez imposer vos points de vue. Donc aujourd'hui, les choses, évidemment, sont beaucoup plus difficiles, parce que ce n'est pas les journées de grève qui réussissent à créer le même rapport de force. Mais le fait d'avoir déplacé, effectivement, sur les ronds-points, c'est-à-dire dans l'espace public quelque part, les revendications et d'avoir donné des revendications aussi larges, effectivement, à créer cette sympathie dans l'opinion. Parce qu'une des caractéristiques quand même du mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça n'a jamais été très massif au niveau des manifestations. Même là où il y a eu plus de monde, c'était à la fin novembre, début décembre, c'était, je crois, 300 000 personnes, ce qui est très peu par rapport aux manifestations populaires classiques. Mais il y avait une autre force, c'est que ça éclatait à la fois partout, hein, c'est-à-dire c'était des petits noyaux, mais disséminés sur l'ensemble de l'espace national. Et puis, donc, cette capacité, je dirais, de créer de l'empathie dans l'opinion publique. Là, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui gênait le plus le pouvoir. C'est le fait que le mouvement soit soutenu, malgré tout ce qu'on nous racontait sur les casseurs, etc., soit soutenu par l'opinion publique, parce qu'aujourd'hui, pour la politique, ça passe par là, par ces échéances électorales, etc. Le problème, c'est comment convertir tout ça en véritable programme alternatif qui passe par les relais classique, parce que quoi qu'en disent les Gilets jaunes, qui sont extrêmement méfiants par rapport aux formes de représentation, de récupération, comme ils disent, ça s'explique aussi par l'échec de la gauche. Je veux dire, les gens ont vu la droite, la gauche, etc. Nous, la sidérurgie lorraine, hein, on est bien placé pour le dire, puisque ce mouvement de liquidation, il a été commencé par la droite. Quand Mitterrand, l'ONU et l'UDU de France, où Mitterrand fait son meilleur score, il est même venu à l'automne, etc., nous dire « ça y est, je suis élu président de la République, on va cesser ce plan de restructuration ». Donc les gens étaient pleins d'espoir, et c'est finalement Fabius, quelques années plus tard, qui a achevé la liquidation de la sidérurgie, ce qui fait que le local du PS a été saccagé par les ouvriers non-oui, etc. Donc on a eu comme ça ce désenchantement à l'égard des partis qui peut expliquer que chez les Gilets jaunes, il y a cette espèce de réticence à toute forme de représentation. Mais comment faire autrement ? C'est-à-dire, c'est ça, toute la question, elle est de trouver de nouvelles formes qui permettent à la fois d'impliquer un maximum de gens, mais avoir aussi des débouchés politiques avec les règles qui sont les nôtres aujourd'hui, parce qu'on n'est pas à la veille d'une révolution.
Il faut peut-être que l'effort vienne des deux côtés.
De quel côté ?
Mais du côté des Gilets jaunes et du côté syndical.
Alors voilà, c'est sûr que tout... Moi, j'ai dit aussi que le mouvement des Gilets jaunes, ça nous concernait tous. J'étais un peu gêné qu'on focalise uniquement sur Macron. Parce que bien sûr, Macron, j'ai toute la conclusion de mon histoire populaire est sur le programme de Macron, donc je ne vais pas apparaître comme quelqu'un qui va essayer de le défendre. Mais il est représentatif d'une classe sociale, de sa classe sociale, la classe des CSD+, etc., etc. Donc finalement, quand le mouvement des Gilets jaunes nous interroge tous en fonction de la position que l'occupe dans la société, pour réfléchir aux nouvelles formes d'alliance qu'on pourrait créer, ou mouvement qu'on pourrait développer de façon à écrire une nouvelle page de l'histoire des classes populaires.
C'est toi qui as écrit dans le livre, je crois, que les Gilets jaunes dans une manifestation sont passés devant le siège du MEDEF, ils ne s'y sont même pas arrêtés.
Alors, c'est pas moi.
C'est pas toi. C'est un fait connu.
C'est sûr que c'est une des caractéristiques aussi des Gilets jaunes qui frappe et qui a un peu gêné des gens qui ont l'habitude de la lutte sociale, c'est que l'entreprise en elle-même est très très peu concernée, alors que ça reste un enjeu majeur. Il y a donc là des ambiguïtés dans cette espèce de dénonciation globale des élites. C'est sûr que je pense aussi que c'est pour ça que d'ailleurs je m'occupe d'une association d'éducation populaire et on fait des petits spectacles qu'on appelle des conférences gesticulées. Eh bien, on en a une qui est sur, s'appelle Quand le peuple gronde, qui est destinée plus spécialement aux Gilets jaunes. Donc chaque fois qu'on est invité, on y va. Enfin, on n'a pas encore tout à fait commencé, parce qu'on vient juste de la mettre au point. C'est parce que je pense qu'il y a un déficit d'histoire aussi. C'est pas parce qu'on est prolo que la vérité sorte spontanément. Ça, pour moi, c'est du populisme. Moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire. Je crois que voilà, ce mouvement-là, il a énormément d'énergie, d'idées, etc., mais qui ne peut pas se passer de liaison avec des gens qui en apporteront aussi leur expérience, leurs idées, etc. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Les mouvements qui se sont refermés sur eux-mêmes n'ont jamais pu avoir un très fort impact. Donc c'est ça aussi qui est un enjeu du côté des Gilets jaunes et de notre côté de trouver des moyens, je dirais, de réconciliation, de travail en commun, qui ne soient plus sous le mode ancien de l'intellectuel qui parle au nom de voilà. Parce que les gens n'en veulent plus et ils ont bien raison. C'est fini tout ça. Mais l'idée qu'on peut quand même apporter des outils pour que les gens mènent une lutte, je dirais, de façon plus lucide, plus efficace, etc. Ça, j'y crois encore. C'est pour moi très important, oui.
Est-ce que le mouvement ouvrier est mort ?
Le mouvement ouvrier, ça dépend comment on le définit. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que ça prend des formes différentes, que les ouvriers, c'est encore 20% de la population active en France, même si on a zéro à l'Assemblée nationale, ce qui est une régression considérable par rapport à 36. Hein. Il y en avait plus de 50. Donc on voit là aussi la crise de la représentation. Ce qu'on disait, l'exclusion des classes populaires, des corps intermédiaires, etc. C'est une réalité. C'est aussi ça qui a généré le mouvement. Donc voilà, ça se recomposera autrement, avec une élévation globale aussi de la compétence, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers ont le bac, etc., sont tout à fait capables de prendre en charge aussi des affaires qui peuvent paraître compliquées. Donc on a des transformations, mais donc on dira peut-être plus mouvement ouvrier, mais mouvement populaire, en tout cas. Alors une autre dimension que je n'ai pas abordée, c'est aussi qu'attention de ne pas raisonner uniquement sur le plan national, hein, parce qu'il y a aussi cette dimension international. C'est quand même un des grands échecs pour moi d'histoire du mouvement ouvrier. C'est qu'en 1848, vous avez Marx, Engels, manifeste du Parti communiste, ça se termine par « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », et qu'aujourd'hui on voit que le prolétariat ou le mouvement ouvrier n'est même pas capable de structurer au niveau européen. Donc là, il y a eu une nationalisation
des organisations du mouvement ouvrier qui a permis d'obtenir des choses, hein, c'est certain, mais d'un autre côté qui a quand même eu des effets négatifs, quoi, dans le fait que toutes les délocalisations d'entreprises, elles ont développé un prolétariat qui auparavant était en France, puis aujourd'hui va être en Chine, en Afrique, etc., etc., et il y a très très peu de liaisons qui permettraient aussi de donner une dimension supranationale ou internationale à ces luttes-là, et c'est aussi des dimensions qu'il ne faut pas perdre de vue quand on réfléchit à tout ça.
Cette loi, elle va passer. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder.
Empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme la rivière coule la mémoire des pères, de nos pères, des vieilles histoires qu'on chantait naguère au coin du feu le soir. Au fond des clairières brûle la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme le tonnerre gronde la colère des révolutionnaires, inondant la terre de rêves, d'espoir, de frondes légendaires. Comme la rivière coule la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arrive.
Est-ce que tu penses que le fait des ronds-points, surtout, c'est là où c'était le plus spectaculaire, fait que les frontières entre ceux qui bossent dans les entreprises ou qui sont retraités et ceux qui ne sont pas de ce monde-là, qui sont dans les EHPAD ou dans les écoles, parce que là, il y a tout, ça a remué tout le monde, de petits salaires et de gens qui finissaient mal les fins de mois, est-ce que tu penses que ça, c'est une chose nouvelle qui aura des suites ?
Le suite, je peux pas y répondre parce que ce serait aller au-delà des choses. Mais oui, non. Mais ce que je pense simplement, c'est que cette logique des ronds-points, la symbolique du gilet jaune, enfin, il y a beaucoup d'innovations comme ça, très très intéressantes, qui a heurté aussi les anciens militants. C'est presque un anti-front populaire, hein, le mouvement des gilets jaunes. Le rond-point au lieu de l'usine, la Marseillaise au lieu de l'international, le drapeau bleu blanc rouge au lieu du drapeau rouge, etc., etc., etc. Bon, c'est sûr que ça pouvait heurter ceux qui avaient une culture politique, voilà, mais on voit aussi que les symboles, ils n'ont pas d'éternité, ils peuvent être réinterprétés. Après tout, la Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire, hein, au départ. Bon, enfin, il y a une recomposition de ces questions-là qui permet de créer aussi des alliances nouvelles avec des gens, parce que notre société, c'est une société qui individualise énormément les gens. Qui les isole, etc. Donc effectivement, les retraités, les gens qui sont des travailleurs ubérisés, comme on dit, etc., eh bien, peuvent se retrouver autour d'un rond-point, alors que dans l'entreprise, ils n'avaient pas leur place. Donc on renoue avec une tradition qui a existé dans l'histoire du mouvement ouvrier, la tradition du anarcho-syndicaliste, comme on dit parfois, des bourses du travail, par exemple, où c'était dans le quartier qu'on rassemblait les gens plus que dans l'entreprise, et c'est peut-être une des dimensions aussi, d'ailleurs, à Saint-Nazaire, c'est la logique de la maison du peuple, etc., des lieux inscrits dans l'espace par le fait qu'ils peuvent rassembler des gens qui sont en dehors de l'usine, et ça me semble quelque chose de très important. Ouais.
En même temps, ça passe un peu à côté de la confrontation avec les propriétaires des moyens de production, avec le patronat, quoi.
Ben oui, mais là, l'une des grandes victoires du capitalisme après 68, ça a été de créer des telles formes de domination à l'intérieur des entreprises que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les salariés de mener des luttes dans l'entreprise. Quand on voit comment ça fonctionne, l'atomisation des gens, la mise en concurrence, le fait que même dans les entreprises qui n'ont pas été ou qui n'ont pas été complètement liquidées, même dans l'automobile, par exemple, si vous prenez Sochaux, on voit très bien que le noyau des permanents maintenant est extrêmement réduit. Alors, il y a une logique dominante des intérimaires, donc comment voulez-vous donc, les luttes sociales, elles sont conditionnées par des rapports de force. Donc le problème, c'est de créer des rapports de force avec des outils, des armes, des possibilités qui existent réellement, et non pas de s'arc-bouter peut-être éternellement sur des formes de lutte anciennes qui ne sont plus efficaces aujourd'hui.
J'aime toujours dans le débat, c'est qu'on met en accusation les gilets jaunes en permanence et on ne regarde pas de l'autre côté ce qui se passe, comment les réactions. Hier soir, nous avions organisé à Bretigny une projection de Cheveux du Soleil. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont venues. Il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas. Alors bien sûr des gilets jaunes, puisqu'on est deux là sur... Gilets jaunes sur un rond-point qui existe toujours, on va y aller cet après-midi, je pense, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Dans la salle, il n'y avait aucun élu. Il y a 35 conseillers municipaux à Bretigny, ville de 30 000 habitants, aucun élu. Les syndicalistes étaient très peu nombreux, il y avait deux camarades, mais qui sont aussi avec nous sur le rond-point de Sainte-Geneviève, de la Croix-Blanche. Après, l'idée est venue, par exemple, pourquoi vous n'allez pas voter? Mais attendez, ils sont où les élus qui nous représentent? Ils sont où, là, aujourd'hui? On a été tous les deux convoqués par les flics parce qu'on a manifesté devant la permanence de la députée. Le débat qu'on a eu avec la police, c'était pourquoi vous manifestez? On dit, on en a marre de ne pas être représenté. On a des représentants qui nous racontent l'histoire qu'on nous raconte à la télévision. Enfin bon, tous les jours. Nous, on veut qu'elles portent nos revendications. Moi, je suis retraité de la fonction publique. On rencontre plein de gens, mais pour qui l'entreprise, ça n'a aujourd'hui aucun sens. On a des gens qui vivent avec 500 euros par mois, qui sont dans des situations pas possibles... Donc, ces gens-là, ils sont représentés où? Dans les organisations syndicales, dans les associations, parce que on parlait de la déstructuration de la vie sociale, mais elle est complète. Moi, j'étais longtemps représentant mutualiste, mais le code de la mutualité, il a été dézingué. Aujourd'hui, c'est le président de la mutuelle qui établit la liste des représentants à son conseil d'administration. Parce qu'on parle des organisations syndicales, mais il y a toute la vie associative. J'étais à un moment président du comité de gestion du comité syndical de ma cité. Aujourd'hui, on ne peut plus y être. On est obligé de passer par un gestionnaire. Parce qu'aujourd'hui, la règle, c'est que le président du conseil syndical, il est responsable sur ses deniers de ce qu'il pourrait y avoir comme problème dans la cité. Et dans une cité, vous avez des emmerdeurs. Il y en a partout en France, hein, des emmerdeurs. Toute cette situation qui est là, et moi je trouve que c'est très dommage que les organisations en place ne viennent pas voir ce qui se passe chez les Gilets jaunes et qui, dans le même temps, les critiquent sans regarder ce qui s'y passe.
Effectivement, j'ai parti d'un rond-point à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Donc, je vois le mouvement de Gilets jaunes de l'intérieur. Et je vous propose une démarche à vous, les intellos de service. C'est que vous ne comprenez pas le mouvement de Gilets jaunes, et personne ne comprend le mouvement. Moi, je propose la démarche de particulier au général. Prenez un Gilet jaune, hein, un qui est retraité, qui est ouvrier, qui est instite, etc. Et faites-lui raconter sa vie à lui en tant que personne. Faites rencontrer la vie peut-être des milliers de Gilets jaunes qui seront des milliers d'individus, hein, qui n'auront pas de rapport avec les autres. Peut-être que par là, vous allez pourrez faire une synthèse de ce qu'est le mouvement Gilets jaunes. Maintenant, il y a un point extrêmement important, c'est l'aspect de la représentation. Vous avez parlé de Saint-Nazaire. J'étais délégué de mon groupe à Saint-Nazaire. J'avais le mandat précis pendant 3 jours d'être délégué à Saint-Nazaire. Rendez-vous compte de ça. Hein? C'est-à-dire que les Gilets jaunes donnent des mandats à des personnes pour une mission précise, limitée dans l'espace et dans le temps. Dès que la mission est accomplie, la personne disparaît. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est que c'est qui conduit à qu'il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de leader, il n'y a pas quelqu'un qui se dit « je commande les Gilets jaunes hein? ». Donc c'est bien de l'autogestion, c'est donc un peu ce que vous avez parlé de l'anarcho-syndicalisme, donc c'est l'autogestion et de la démocratie directe. C'est ça actuellement l'état actuel du mouvement des Gilets jaunes. L'évolution qui se dessine actuellement, c'est sur le plan numérique, hein, sur l'informatique. Donc il y a déjà 2 tentatives qui avancent, une qui vient de Saint-Nazaire, de faire un pôle numérique national. Et maintenant, il y a François Boulot, qui est l'avocat Gilets jaunes de Rouen, qui a donc mis en place un site qui s'appelle la ligne jaune, hein, pour essayer, donc là justement, on va vers une tentative de décentralisation, au moins des informations, hein, mais non pas des mouvements, mais des informations. Hein, dire qu'est-ce fait-on, à quel moment et comment, avec qui, etc. Et c'est ça la ligne actuelle.
Dis-moi la réaction du patronat au début. Une réaction plutôt favorable, bien évidemment, on sait pourquoi. Concernant les relations entre les Gilets jaunes et les mondes syndicaux, bon. J'ai des camarades qui sont allés sur les ronds-points. À certains endroits, ils ont été mal reçus, à d'autres endroits, au contraire, ils ont été bien accueillis. Et je pense que ça vient du fait qu'un certain nombre de personnes qui sont entrées dans ce mouvement des Gilets jaunes, des personnes qui viennent d'un peu partout, dont une grande partie n'a pas d'expérience ou de culture syndicale au départ, et n'avait de connaissance du monde syndical que via les médias. Alors vous voyez, quelle connaissance pouvait-il en avoir? Et puis au fur et à mesure des échanges, des rencontres, apparaissent des revendications chez les uns, qui se rendent compte que finalement, elle rejoint une des revendications qui étaient portées depuis des années par le mouvement syndical. Peut-être au niveau des élus, il y a nécessité peut-être d'être plus présent. Ça, c'est très important, parce que sinon, effectivement, ils ont l'impression que, bah oui, les élus sont là simplement pour leur place et non pas pour transmettre et être les porte-parole de ce que vivent les populations. Cette idée d'avoir quelqu'un qui va être désigné ponctuellement, bon, on a l'impression de découvrir cela, mais il y a certaines sociétés sur la planète où effectivement, alors il y a éventuellement les très vieux, une espèce de comité des sages, mais bien souvent face à une situation donnée, eh bien, à quelqu'un qui connaît un petit peu le problème, qui a été confronté à une situation particulière, bon, bah, ponctuellement, pendant ce temps, c'est cette personne-là qui va être en charge de conduire le groupe ou d'aider le groupe à affronter la situation. Dans une autre situation, ce serait quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de mandat permanent, mais des mandats temporaires. C'était intéressant, justement.
Changement structurel très, très important qu'on vit. Le métier de journaliste est aussi diversifié. Hein. Peut-être que le poids des chaînes télé
Avant, il y en avait qu'une, après, etc. Régresser de nouvelles possibilités qui existent et qui donc aussi vont dans un sens où il y a une diversification de fait de l'information et beaucoup de jeunes journalistes qui s'engagent dans des... Et chez nous, c'est dans le monde des sciences sociales, c'est pareil, il y a une diversification. Il y a toujours une dominante, il y a des dominants. Les dominants restent en gros les mêmes, c'est ceux qui sont plus proches, j'allais dire, du pouvoir et du capitalisme, mais il y a une diversification qui, dans notre métier, moi je le vois par rapport aux jeunes, mes étudiants, etc., s'explique aussi par la dégradation de leur métier. Nous, on voit chez les universitaires, aujourd'hui, il y a plus d'un tiers de jeunes qui sont en fait sur des contrats précaires, ce qui n'existait pas. Moi, quand j'ai débuté, où on était dedans, où on n'était pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont, on appelle ça des post-docs, enfin, qui passent des années et des années. Il y a aussi une volonté de plus en plus grande de briser notre autonomie pour nous faire travailler au service des objectifs qui sont définis par les pouvoirs, soit économiques, soit politiques. Donc, qui font que les chercheurs sont privés d'une partie de leur autonomie qui définit la science même. Donc, il y a tous ces enjeux-là aussi qui permettent aussi d'élargir les formes d'alliance qui peuvent exister et qui font que, eh bien, on peut se retrouver dans des luttes communes où chacun, finalement, va faire part de son expérience et quelque part, on s'aperçoit qu'il y a des points communs. C'est pour ça qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vision forcément pessimiste, même si on ne voit pas la traduction forcément politique encore des choses au niveau des organisations, puisque si on en croit les sondages, ben, enfin, là, c'est encore un autre chapitre, mais on voit que le mouvement des Gilets jaunes ne dessert pas le pouvoir en place. Donc il y a quand même là un problème de traduction politique. Et on a vu, si on prend l'exemple des États-Unis, où il y a eu énormément de remises en cause, beaucoup de gens qui, dans des formes d'organisation plus locales, plus réduites, eh bien, on dit, on ne croit plus à la politique classique, etc., mais on va faire, nous, notre révolution là où on est. Ce dédain, en gros, pour la politique politicienne a quand même abouti à des Trump qui, lui, d'un coup de baguette magique, peut remettre en cause des tas d'acquis.
Je voulais justement leur dire que nous, en tant que syndicalistes CGT, on est aussi très, très troublés. On a mené différentes actions. On a bloqué l'aéroport du Bourget une fois. Il y avait des gilets jaunes qui étaient venus nous rejoindre. On les avait accueillis tout à fait contents qu'ils soient avec nous. Mais on avait du mal à rentrer en contact. Il y a une espèce d'incompréhension sur à la fois l'objet et les moyens d'atteindre nos objectifs. Une autre fois, justement sur le sujet de la privatisation, on a manifesté près du Parlement, à l'Assemblée nationale, et ils étaient aussi là, avec l'avocat, effectivement, Lalanne était là, etc. Et il y avait comme une vitre entre eux et nous. Et pourtant, il n'y avait pas d'animosité, on avait un objectif commun, apparemment, mais on n'a pas réussi à rentrer en contact sur ça.
Donc c'est pour ça que moi, je mets quand même en garde cette espèce de lutte uniquement localisée, sans liaison avec des organisations qui peuvent intervenir au niveau de l'État tout entier, ou voire de l'Union européenne, etc. Parce que les relations de pouvoir, elles restent quand même encore structurées de cette manière-là. C'est pour ça que cet exemple de l'aéroport là, est très intéressant, puisqu'on voit comment le mouvement des Gilets jaunes avec le RIC, etc., a abouti à remettre au goût du jour un truc que beaucoup de gens ignoraient, cette possibilité même qu'ils avaient. Le combat n'est pas fini, il faut, je crois, 4,5 millions de voix, etc. Mais enfin, voilà, on a une première étape qui a été franchie et ça prouve quand même qu'on peut agir, y compris au niveau des instances bureaucratiques ou politiques. Donc ça, je trouve ça un exemple qu'il faut vraiment faire connaître.
Marcel Trier.
L'arme absolue des gens au pouvoir et politique et économique, et comme souvent, hein, c'est main dans la main, il est clair que Macron est l'homme des banques. Je l'appelle Micron, moi d'ailleurs. Mais leur arme absolue, c'est la précarité. Un ouvrier précaire, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de combattre, de se syndiquer, par exemple, etc. Un journaliste précaire, ça sera très difficile pour lui de faire bien son métier. Ces gens-là détestent les citoyens et conquis dans des luttes, des positions qui les rendent, qui les oblige à faire gaffe, quoi. Hein. Donc, on fout tout ça en l'air, tout le service public, etc. Et on précarise tout, que chacun tremble dans ses pantalons, et la trouille de perdre le peu qu'il a. Et tout ça, ça n'est pas favorable au combat.
À propos des gilets jaunes, pas seulement les entreprises qui ne sont pas dans le coup. Quand Macron a dit au grand patronat, donnez-leur 1000 euros, donnez-leur 1000 euros, comme ça ils vont peut-être être un petit peu contents. Bon, c'est ça qui s'est passé. La prime d'activité, la première boîte richissime qui a donné 1000 euros instantanément à tous ses salariés, elle s'appelle Total. Bon, ça voulait dire quoi? Que de ce côté-là, ils ont pensé qu'au moins avec 1000 euros, il y a des gens qui se diraient, ben c'est déjà ça, quoi. C'est toujours bon à prendre. Et donc, c'est pas la peine d'aller dans la rue, c'est pas la peine de mettre le feu aux pauvres et tout, quoi. Bon, c'est ça qu'il y a une espèce de chantage à l'argent et tout. Vous savez, cette histoire de l'argent, elle est terrible. Moi, j'ai beaucoup connu les types qui ont fait la coopérative ouvrière à Gemenos, hein, qui, après avoir résisté à la fermeture du Lille-et-Vert, bon, ils racontent, les avocats racontent qu'ils passaient devant le tribunal des prud'hommes, et à chaque ouvrier, on lui disait, est-ce que 70 000 euros, ça vous va? Non. Une semaine après, 80 000 euros, ça vous va? Non. 90 000 euros, non. Bon, et donc, ces ouvriers, pas tous, mais la moitié de l'usine, ils ont préféré se passer de 90 000 euros immédiat pour conserver la boîte où ils avaient fait leur vie et la vie de cette zone autour de Marseille, le thé de l'éléphant. Bon, cette histoire, c'est quand même une histoire formidable, parce que ça veut dire qu'il y a encore des valeurs, il y a de la dignité dans ce monde ouvrier. Bon, quand il n'est pas démantelé, quand il n'est pas écrabouillé, voilà.
Moi, ce qui me pose question quand même sur ce mouvement des Gilets jaunes, et bon, on a parlé par rapport au patronat, des choses comme ça. Enfin, moi, je participe de temps en temps à des ronds-points sur Sens. Bon, c'est bien sympathique. C'est vrai qu'il s'est créé des relations humaines importantes. Bon, le film de Ruffin aussi, on l'a projeté aussi sur Sens. Bon, très bien, hein, on a une série de portraits intéressants. Bon, moi, ce qui me pose question, c'est de déboucher vers quoi on va aller. Et moi, ce qui m'interroge donc là tout de suite, c'est que par rapport aux prochaines échéances électorales, la gauche de transformation sociale, enfin je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, elle n'a jamais été aussi basse. Macron et l'extrême droite, ben, finalement, profitent, enfin je ne sais pas s'ils profitent, mais aujourd'hui, c'est quand même c'est ce mouvement-là qui ressort. Et la gauche qui veut transformer les choses, enfin, ou qui aurait envie, ou... Enfin, ben, elle n'a jamais été aussi basse. Et moi, ça me pose question quand même.
Oui, ben c'est effectivement ce qu'on peut constater de manière incontestable. Et donc, si on croit qu'encore qu'il y a au sein de la gauche des forces qui sont réellement engagées dans des transformations sociales qui vont dans le bon sens, etc., on ne peut qu'être inquiet de cette évolution-là. On peut se demander... C'est une question que je posais aussi dans mon livre, si effectivement on n'est pas entré dans un nouveau système où finalement ce genre de révolte est déjà intégré par le système pour éviter des transformations qui soient radicales de la société. Moi, quand je pose cette question-là, parfois les gens qui sont engagés dans des mouvements, ils croient que c'est une critique de ce qu'ils font. Non, je veux dire, la lucidité, les mouvements sociaux ont toujours intérêt à la lucidité. C'est peut-être ce qui a manqué au Parti communiste à une certaine époque, hein. C'est-à-dire analyser les contradictions du mouvement si on veut l'aider. C'est pas une... Mais force est de constater qu'effectivement, on ne peut pas penser à des transformations profondes de la société française sans en passer par la logique politique classique, c'est-à-dire des élections, etc., parce que c'est le pouvoir d'État qui est en jeu. Deux, le moment actuel des Gilets jaunes ne donne aucune perspective dans cette voie-là. Voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Donc tout ce qui est intéressant, enrichissant, prometteur aujourd'hui dans ce qui se passe à l'intérieur du mouvement, il faut trouver des moyens de le capitaliser pour faire en sorte qu'il puisse déboucher sur un programme politique. Voilà, c'est ça un petit peu la question, je croyais, qui nous est posée. Oui. Mais personne n'a la réponse pour le moment.
Donner des précisions sur l'association d'éducation populaire dont a parlé Gérard Marie.
Oui, donc cette association, ben, la directrice est là d'ailleurs, s'appelle DAJA, D-A-J-A. Hein, c'est facile, si vous tapez DAJA sur Google, vous verrez, on a un site. Donc nous existons depuis une dizaine d'années. En fait, cette association est née du moment où j'ai démissionné du Conseil scientifique de la Cité nationale d'histoire des migrations quand Sarkozy avait créé son ministère de l'identité. C'est Jacques Toubon qui est un peu le responsable de la préfiguration de ce musée. Nous, on l'appelait Cité, c'est devenu musée aujourd'hui. Et donc, on avait fait un petit groupe, justement, autour de l'éducation populaire, c'est-à-dire comment ces questions d'immigration, de lutte contre les discriminations, on pouvait aussi les traduire, les transmettre dans des langages qui soient accessibles à tout le monde, etc. Donc, on avait travaillé avec des artistes et tout. Et puis, donc, quand il y a eu... On a démissionné tout le conseil scientifique, d'ailleurs, à ce moment-là. Tous les historiens ont démissionné. Et nous, on a gardé les liens qu'on avait créés avec les artistes, les militants associatifs et les chercheurs en sciences sociales. Et on a créé cette association d'AJA, donc, qui fait des spectacles depuis 10 ans. Et c'est nous, par exemple, qui avons redécouvert le clou de chocolat. Bon, qui a donné lieu à un film avec Omar Sy, etc. Et quand il y a eu le film, d'ailleurs, ils n'ont plus du tout parlé de ce qu'on avait fait. C'est toujours la même chose, hein. Mais voilà, nous, on continue, on a un spectacle qui tourne toujours autour de l'histoire de cet artiste. Et puis, on fait maintenant donc des conférences, qu'on appelle des conférences gesticulées, où je suis moi-même sur scène, mais sans sortir trop de mon rôle d'historien, et autour de certains thèmes que j'ai traités dans mon histoire populaire de la France. C'est pour toucher des publics qui ne lisent pas, en gros, les bouquins, notamment dans les classes. On fonctionne énormément en région parisienne, dans les lycées, dans les collèges, voilà, de banlieue, dans les centres sociaux, etc. Donc c'est une activité très, très prenante, je dirais, mais qui permet de toucher des publics qu'autrement on ne touche pas. Donc c'est pour ça qu'on en a fait une aussi, qui permet de faire le lien avec le mouvement des Gilets jaunes et le raccorder à toute cette grande tradition des luttes populaires en France depuis, ben, on remonte sous l'Ancien Régime, enfin voilà.
Et dans les conférences, il y a le thème des Gilets jaunes ?
Oui, oui, ben dans la dernière, ça s'appelle « Quand le peuple gronde », et le sous-titre, c'est « Des ongles bleus aux gilets jaunes ». Alors, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas les ongles bleus, enfin, rien ne vous empêche, évidemment, de nous contacter. C'est très facile par le biais du site, et on peut intervenir, voilà, pour expliquer un petit peu cette longue tradition des luttes, depuis les ongles bleus, donc jusqu'aux gilets jaunes, en passant par les rouges, évidemment.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est sain, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassus, à Toulouse, à Local, à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.